En parler. Alors, donc on est en haut, premier paragraphe, là, la troisième ligne. Kadosh ou. On avait dit, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une longue histoire qu'on va raccourcir, mais c'était la femme de Shunam qui hébergeait Elisha, qui est un prophète, le Talmid de Eliaou, et donc après elle s'est occupée de lui parce qu'il passait tout le temps chez lui, etc., etc. Et donc elle a dit à son mari, tu sais, cet homme, c'est un homme saint. D'accord, elle a dit d'où elle sait qu'elle est sainte. Il y avait l'histoire de la mouche, l'histoire du drap, toute l'histoire qu'on avait vue. Et on est à la troisième ligne maintenant. Je vais reprendre, parce que sinon il faut tout expliquer. Kadosh ou la troisième ligne du premier paragraphe. Troisième ligne. Non, voilà.
Amar Rabbi Yosef.
Voilà. Kadosh ou elle a dit c'est un homme saint. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina. Rabbi Yosef Rabbi Chanina, il a dit pourquoi dit ou lui. Il fallait dire. Oui, c'est Ish Kadosh, c'est un homme Kadosh. Pourquoi lui? Elle m'a dit, Hu Kadosh. Lui,
d'accord,
c'est un homme saint. On met Charto et No Kadosh, mais son serviteur, il n'est pas saint. Parce qu'en réalité, bon, pour des raisons que j'ignore, Elisha, il avait un serviteur qui s'appelait Gehazi, qui était un fiefé imbécile, un rachat, un pauvre type. Et je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il faisait chez Elisha. Mais en tout cas, il s'est mal comporté plusieurs fois. Et cette femme-là, on avait dit qu'une. La femme, c'est elle qui connaît mieux les qualités des invités. C'est comme ça qu'elle s'est aperçue que Elijah, il était Kadosh. Elle a dit, lui, il est Kadosh, mais son serviteur, oublie-moi. Chez Neymar, comme il est dit, alors, comme il est dit, on reviendra. Veigash Gehazi le Hadfa. Gehazi s'est approché d'elle pour l'attraper. Alors, on avait dit cette histoire-là, qu'elle a reçu longtemps le prophète, etc. Et puis après que Elisha, il lui avait fait une bracha pour qu'elle ait un enfant, et que plus de nombreuses années plus tard, cet enfant, il est mort d'une insolation, et que donc elle a couru avec cet enfant pour demander à Elisha de le ressusciter, de le ranimer. Et quand elle est arrivée, Elisha, il était dans sa tente, et Gehazi, donc, était le serviteur, etc., qui empêchait les gens d'approcher, c'est marqué, Veigash, c'est parce que là, Veigash Gehazi le Hadfa. Il s'est approché Gehazi pour l'attraper. Ça veut dire, au lieu de faire bon stop madame, il en a profité, il a fait tatati, tatata. Amar Rabbi Yosi Rabbi Chanina, c'est-à-dire les hadfa, charza be'od yofia. Il l'a attrapé be'od yofia par sa beauté. Il l'a prise par la poitrine, il a commencé à... Bon, mais ça c'est longtemps après, cette histoire-là. Et ce que dit le commentateur, il dit, c'est drôle. La Gemara dit, d'où elle a su? Oui, ce qu'elle a dit...
Ouais.
C'est comme si c'est par anticipation. Mmh. Ah, non, pas du tout. La femme, elle sent... Elle sent le comportement d'un individu. Elle a vu que ce type-là, il avait des regards, il parlait, patati patata, elle a dit, celui-là, laisse-moi tranquille, celui-là, il est pas bien. Bon, il s'est rien passé, c'est pas son serviteur, c'est le serviteur du prophète. Et des années après, ça s'est révélé que lui, il avait profité, il s'est pas gêné. Et donc après, finalement, Elisha, il s'est rendu compte, c'est un pauvre type, et il l'a maudit, etc., enfin, il l'a renvoyé. Et une autre fois aussi, parce que il y avait un roi syrien, vous connaissez peut-être cette histoire, qui était atteint de la lèpre. Et il avait demandé au prophète, on lui avait dit, tu sais quoi, chez les juifs, ils savent tout guérir. Il y a un prophète là-bas, vas-y. Il est allé là-bas, et Elisha lui a dit, il faut que tu te rendes dans le Jourdain. Effectivement, il s'est trempé dans le Jourdain, d'accord, et il a guéri. Et donc après, le roi, il était vraiment comme un fou devant... C'était Naaman, d'accord? Bon, je vous raconterai une autre fois l'histoire de Naaman. Et donc après, ce roi-là, il a dit, il faut que je fasse des cadeaux à ce prophète. Il est arrivé avec des chariots et des trucs, plein de trucs. Et Elisha a dit, non, je veux rien. Merci beaucoup. Que tu sois reconnaissant vers le peuple juif et que tu arrêtes de les attaquer, ça me suffit. Et donc Elisha, il repart. Pendant ce temps, son serviteur Gehazi, il a couru, il a dit, non, mais moi, je prends, moi. Moi, je prends ce que vous voulez. Et donc, quand Elisha, il s'est rendu compte, alors, il l'a renvoyé, il a dit que la lèpre qu'il avait, le roi Naaman, qu'elle te quitte plus, toi et toutes tes générations. Et va-t'en d'ici. Mais bon, c'est vrai que ça m'a toujours étonné comment un homme Kadosh, il a pu avoir un serviteur aussi mal famé, d'accord? Et on voit des fois, de temps en temps, si vous avez côtoyé des rabbanim, des fois, ceux qui sont dans les entourages des rabbanim, ils sont moyennement...
Des boutons.
Hein, voilà, ils prennent l'argent, ils prennent ci, ils prennent ça, alors d'accord? C'est toujours étonnant parce qu'on se dit, mais quand même, un grand tzaddik comme ça, qu'est-ce qu'il fait avec des gens comme ça? Mais des fois, ils sont dans les vapes, je sais pas comment.
C'est fait pour les sortir de justement.
Non, des fois, ils sont pas dans ce monde, alors ils voient pas qu'est-ce qui se passe. Pas toujours.
Il y en a eu.
Il y en a comme ça qui profitent de la situation. Amar Rabbi Yosi Bar Rabbi Chanina, Et Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Mishum, Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, Ben Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, il a dit, Kol armeréar talmid racham betor beto, tout celui qui invite un talmid racham dans sa maison, ou mehaneu minechassav, et qui lui fait profiter de ses biens, c'est-à-dire inviter un rav, inviter un racham, ma'ale alav akatuv keilu makriv temidin. C'est comme s'il offrait un korban perpétuel. Il dit pourquoi? Parce que si vous rappelez, la femme, on l'avait vu ce verset un peu avant, elle a dit à son mari, regarde, ce prophète, c'est un homme saint. Il vient chez nous tamid, tout le temps. Alors la Gemara dit, ça veut dire quoi, tout le temps? C'est péjoratif de dire tout le temps. Elle a dit, il vient chez nous, il nous rend visite, mais tout le temps, c'est genre, il est un peu collant. Ouais. D'accord? Donc c'est vrai qu'elle m'a dit, non, c'est pas ça. Elle a voulu faire une allusion, tamid, c'est dans le sens de la... des choses perpétuelles comme le korban tamid. Et c'est pour nous comme si on offrait un sacrifice. Ça veut dire qu'un homme, on n'a pas la possibilité de s'approcher d'Hachem. Et la Gemara dit, comment on peut s'approcher d'Hachem en s'approchant des Talmidei Chachamim? Les Talmidei Chachamim, d'accord, c'est eux qui matérialisent la présence d'Hachem sur terre. Donc, faire un, donner un cadeau à un Talmidei Chacham, ou l'inviter chez soi, le nourrir, c'est finalement comme faire un korban. D'accord, c'est ce qu'on peut faire de meilleur comme cadeau pour Hachem. Donc c'est pour ça qu'elle a employé le tamid, pas en référence au caractère gênant de cette visite, mais plutôt à l'aspect perpétuel comme le korban. Ah, pas talmid, tamid.
Tamid
racham. Non, on dit talmid, talmid.
Talmid
racham, c'est un talmid racham. Mais là c'est tamid, tamid, avec un lamed en plus.
Talmid racham.
Non, talmid. Alors pourquoi il y a un lamed? Bon, le Ben Israël dit parce que le lamed c'est la lettre qui représente l'étude, le limoud. Mmh. Alors, c'est pour ça que tamid plus le lamed, ça fait un talmid. C'est une bonne idée. Ah. Alors, on entame un nouveau sujet, Nundalet. Tout le monde est bon? Gamal Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yossi Rabbi Hanina, toujours le même, Shum Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc c'est un nouveau sujet. Al Yamod Adam Bimkom Gavoa Beit Palel. Un homme, il ne doit pas se tenir dans un endroit élevé pour prier. Ça veut dire on ne doit pas se tenir en hauteur pour prier. Et là, Bemakom Namour, mais dans un endroit en déclive, bas, Beit Palel. Chez Nema, comme c'est marqué, le fameux Mizmor, Mimahamakim Keratir Hashem. C'est des profondeurs que je t'invoque Hashem. Ça veut dire que, on va voir, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que, et c'est pour cette raison que, vous voyez, il y avait deux sortes de choules, ceux qui, à Tzfat. Il y a des choules où le chaliar tzibouri est en hauteur, comme souvent dans certains endroits, au Moyen-Âge, ou etc. Vous avez le chaliar tzibouri où il monte sur une tourelle, où il est sur une petite nacelle, ou un peu, bon, ça, c'est pas, sans méchanceté, comme à Bar Yochai, d'accord, on monte en hauteur, d'accord. Alors que quand... Eh ben, il y a des estrades, il y a une estrade pour monter. Ah, l'ancien, l'ex Bar Yochai. Oui, on monte.
Ah, vous n'avez pas de tébala,
comme nous.
Non, on reste à droite.
Nous, on monte pas, nous, on reste aux yeux.
Non, mais attends, il faut quand même dire que maintenant, le minag, c'est qu'il y ait une teva pour que tout le monde voit, etc. Ouais. Mais
même en Afrique du Nord.
Partout, non, c'est pas péjoratif. Mais ouais. La Gemara, tu vois bien qu'à Tzfat, si tu as été voir la choule de Arizal, l'endroit du chaliar Tzibouk, il descend quelques marches, et c'est une sorte de petite... une petite cuvette dans laquelle se met le chaliar Tzibouk pour qu'il y ait un hakim. Alors, on va pas jusque-là, mais souvent, on reste
au même niveau.
Et c'est pour ça qu'il y en a qui font la Torah, ils le lisent sur l'estrade. Mais par exemple, c'est les Ashkenazim. Ils ont une estrade des fois surélevée pour la Torah, mais le chaliar Tzibouk, il est au niveau du Tzibouk, et d'ailleurs, il fait la tefila devant. C'est pas comme nous au même endroit, d'accord?
Il fait la tefila devant le mur.
Exactement. Ok?
Il y a un petit office, comme il est devant
comme
le mur.
Comme à l'école, ils ont pour la Torah, et le
chaliar Tzibouk devant. C'est les Ashkenazim, ils font comme ça, exactement. Chez les Sfaradim, on fait la tefila à l'endroit du Sefer Torah. Que ce soit en hauteur ou que ce soit au sol, tout le monde, il n'y a pas de problème. Ce que dit la Gemara, c'est qu'en tout cas, on ne doit pas se mettre surélevé. C'est-à-dire, tu ne dois pas te mettre sur un piédestal, etc. Alors, pour deux raisons. La première, parce que c'est un signe d'orgueil, d'accord, d'être, voilà. Et la deuxième aussi, ça serait comme l'idée de, il faut qu'on s'approche d'Hachem. Hachem, il est partout, même s'il est dans le trou, on viendra te voir. Ok? Tanyana Miyahi, on a enseigné aussi dans une braïta, lo yamod adam, lo al gabi kise. Un homme, il doit se tenir ni sur une chaise, et ni sur un tabouret, ni dans un endroit élevé, vite palais, et là, même comme d'amour, dans un endroit bas pour prier. Les fiches, gabout, les finamakom, parce qu'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas à se mettre en avant devant Hachem, chez Neymar, Mima, Makim, Karatira, Hachem, comme le passage dans Télim, il dit, c'est des profondeurs que je t'implore, comme c'est des profondeurs de son cœur, Aussi, c'est les profondeurs par terre. On est homme devant Hachem. Oktiv, Teifila, Léaniki, Atov. C'est marqué prière du pauvre quand il s'entoure de sa douleur. D'accord? Il y a une idée d'humilité quand on s'adresse à Hachem. Bama Rabbi Yossi Rabbi Chanina, dans la même suite, c'est d'ailleurs le même Rav qui parle, Mishum Rabbi Lezer Ben Yaakov, Amit Palel, celui qui prie, Tsarich Shiikaven et Raglav, il doit coller ses pieds. Que ce soit pour le Kaddish ou que ce soit par la Amida, on doit avoir les deux pieds collés. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veraglem Regel Yeshara. Ce verset, en réalité, il parle des anges, il dit leurs pieds, ils sont Veraglem, leurs pieds, Regel, c'est un pied, Yeshara droit. Donc on voit les pieds des anges. Les anges, ils ont des anges. Quand ils sont matérialisés pour une mission, ils ont un pied droit. Alors en réalité, pourquoi? Quel est le sens d'avoir les pieds joints quand on fait la Amida?
Comme si on avait un pied.
Et pourquoi il faut avoir un pied, n'est pas des coques?
Pour ressembler aux anges.
Et pourquoi il faut ressembler aux anges? Et pourquoi les anges n'ont qu'un pied?
Ils sont corps au chaniot, les gens.
Mais ils ont un pied. Si tu as bien, ils ont deux pieds. Soit tu leur mets pas de pied, ils ont des ailes, d'accord?
Oui, parce que quand il y a une mission, là, ils se matérialisent, sinon ils sont au chat.
J'ai compris, mais alors, quand ils se matérialisent, mais leurs deux pieds? Soit ils ont pas de pied, ils ont des ailes, ou ils ont des âmes, ou ils ont ce que tu veux. Soit ils se matérialisent. Pourquoi? Il faut qu'ils aient un pied. C'est quoi l'idée d'avoir un pied?
De pas marcher.
On peut pas marcher avec un pied, tu peux pas avancer, il te faut une béquille, un type qui est unijambiste, il peut pas marcher. Donc, quelle est l'idée qu'on ne peut pas marcher? On fait l'amida, je ne peux pas marcher. Je suis bloqué.
On s'élève.
Non, on s'élève dans Kadosh Kadosh. Ça, c'est vrai. On fait Kadosh Kadosh Kadosh. Mais dans l'amida, je suis dans l'amida et j'ai les deux pieds joints. Je ne peux pas bouger.
Vous ne pas penser à autre chose que lorsque.
Non, on ne doit pas bouger.
Ah. On ne bouge pas, on pense à. On ne pense pas.
On ne bouge
chose,
pas. On ne doit pas bouger.
Exactement.
Très bien. Alors, c'est vrai que le fait de s'immobiliser, oui. D'accord? C'est un fait de concentration. Mais on a l'impression quand même qu'on veut faire un pied. Tu vois que le passage qui parle des anges, il a dit qu'ils avaient un pied. Mm-hmm. C'est pas, les anges, ils n'ont pas besoin de se concentrer. Et pourtant, c'est marqué mm-hmm. Raglé aime leur pied. Ils formaient un seul pied droit. Donc il y a une idée d'immobilisme, même s'il n'y aurait pas de concentration. Alors, pour raccourcir, l'idée, c'est qu'en réalité, quand on est devant Hachem, on doit montrer qu'on ne peut plus bouger. On est coincé. Sans son aide, on ne peut pas avancer. Donc c'est cette idée-là, je peux pas avancer, je peux pas obtenir ce que je veux, je peux pas aller de l'avant si j'ai pas ton aide. Voilà pourquoi j'ai les deux pieds joints. C'est toi qui peux me donner le mouvement, c'est toi qui peux m'aider à progresser. Donc c'est ça la même idée dans l'Amida, c'est on prie pour la santé, on prie pour la rochma, on prie là par là ça. Oui, mais encore faut-il pouvoir progresser, avancer. Et c'est pour ça quand on est devant Hachem, on dit tu sais, je suis vraiment coincé. Donc l'idée du pied joint, c'est l'idée de coincer. Ok? Et par contre, dans
pourquoi il dit le pied droit?
Non, c'est pas marqué pied droit.
Ah bon?
Ah, droit, pardon. Ils étaient droits. Yachar, les pieds étaient droits dans le sens de la droiture.
Ah, droit, oui. Pas pied droit. Ouais, c'est pour ça, j'ai le pied droit. Pourquoi le pied droit? Oui.
Et une autre explication pourquoi il n'y a pas de mouvement. D'accord? Pourquoi quand on est dans la HM, il n'y a pas de mouvement? Alors, c'est un peu éloigné. C'est marqué que quand il y aura le Mashiach, tous les tzadikim, ils feront une ronde autour d'Hachem. Et ils diront « Zé Hachem qui vit nous l'eau ». C'est un passouk dans le Navi. Ça, c'est l'éternel qu'on a toujours espéré de rencontrer. D'accord? Les commentateurs, ils disent « Mais que ça veut dire ça? Pourquoi une ronde et pourquoi si pour ça ?» Il dit « Parce qu'en réalité, dans ce monde, chacun, il essaye de progresser, d'avancer, de se rapprocher d'Hachem. Et chacun, il pense qu'il fait bien, qu'il fait pas bien, mieux que l'autre, moins bien que l'autre. D'accord? Alors, les petits, nous, on est petits, alors donc on se dit « Bon, à notre niveau, c'est déjà bien ce que je fais. » Mais quand vous avez des grands rabbanim, etc., chacun, ou des chachamim, ou des rebeim, chacun des maîtres d'un groupe, d'accord? Chacun est persuadé que sa voix, c'est la bonne. La Kabbalah, la Halacha, le Moussar, le machin chose, Rabbi Nachman, les Chabad, les Sfarad, chacun il est persuadé, suivez-moi, et on est bon. D'accord? En réalité.
Mais les meilleurs, c'est qui en fait?
c'est que c'est marocain. Non, la vérité, en tout cas, dans la vision sfarade, parce que les autres visions, on peut apprendre de tout le monde. L'idée sfarade, on est sfarade, on reste sfarade, mais on doit puiser de chacun.
Oui.
D'accord? Ça, c'est la spécificité séparade que tu n'as pas dans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien, moins bien, mais disons que chez les Ashkenazim, ils sont Ashkenaz, point final. D'accord? Chez les Chassidim, ils sont Chassid, point final. C'est vrai, les Ashkenazim, bon. vous êtes gentil les séparades, mais chacun sa mère, d'accord? Vous êtes séparades, non Ashkenaz. Il est chassid, encore pire. C'est-à-dire, c'est chassid de Bobov, de Popov, de Lolov, c'est... tout est cloisonné. Alors que chez les Sfaradim, d'accord, par culture, on n'a pas ça. D'accord? Ah, c'est bien ce que vous faites des Ashkenaz. Et les Bobov, et les Chabad, ah, c'est bien. Et les ceux-là, les Breslav et Rabbi Nachman, formidable. D'accord? Tu vois, les grand-mères, elles ont des livres de Rabbi Nachman. Ma mère, elle avait Rabbi Nachman, le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi de ci, le Rabbi de ça. Elle lisait tout, et les Sfaradim, on prend tout. Et culturellement, je pense que c'est une richesse. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, mais c'est une richesse, c'est une ouverture et c'est très bien. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est bien. Après, il y a une perte, parce que c'est vrai que quand tu es complètement sur un mouvement, tu es encore plus fort, tu te sens plus, mais tu regardes les autres de haut. C'est-à-dire, moi, je suis le meilleur.
C'est diffus, pareil.
Alors, donc c'est pour ça que je ne peux pas dire qui est le meilleur.
Non, mais je plaisantais. Hein.
Oui, je sais bien. Mais pour cette raison, c'est marqué, c'est le Zohar qui dit ça, que quand viendra le Mashiach, il y aura une ronde. Et on les mettra tous, les Popov, les Bobov, les Chabad, les Breslav, les Sfarad, tout le monde autour. Et chacun dira, c'est Hachem qui vit nous. Or, la spécificité d'un cercle, c'est que c'est équidistant par rapport au centre. C'est-à-dire, Hachem, il les mettra tous autour, il dit, voilà, il n'y a pas un qui est avant l'autre. Vous êtes tous pareils, et tout le monde est équidistant dans sa proximité d'Hachem. C'est aussi cette idée-là, que quand on fait l'Amida, je m'avance pas. Je peux pas m'avancer vers Hachem. On est tous pareils, on est tous coincés. Toi, t'es coincé, c'est comme les jeux des enfants, vous savez, 1, 2, 3 soleils. Vous connaissez 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils, hop, et tu peux pas bouger. Et ben, dans la Midah, c'est 1, 2, 3 soleils. Toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là, mais personne peut bouger. Personne n'est plus proche parce que de toute manière, on pourra pas bouger. Donc, c'est la même idée qu'un 2, 3 soleils, la Midah. D'accord? Et donc, c'est ça qui dit le Passouk. C'est pour ça que c'est marqué, il faut avoir les pieds joints. Que ce soit pour le Kaddish, que ce soit pour la Midah. Surtout pour la Midah. Régal Yeshara. Ok?
Mais quand même, ouais. dans les meilleurs séparades, il y a les meilleurs des meilleurs.
Ah oui, oui. Non, mais ça, je sais pas.
Et les Marocains.
Ne me cherchez pas, ne me cherchez pas.
La crème de la crème.
Oui, la crème de la crème. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. C'est marqué que qui détient la vérité?
Ben, c'est Hachem.
Non, mais chez les hommes, c'est les Sfaradim pour te suivre, d'accord? C'est les Sfaradim, ils sont représentés par quoi? Par Algérie, Maroc, Tunisie. Aleph, même Tav, ça fait Emet. Aleph, même Tav, c'est ça la vérité. Donc nous, c'est la vérité. Sauf que, si vous enlevez l'Algérie qui est en premier, il vous reste quoi?
Maroc-Tunisie.
Il vous reste Maroc-Tunisie, fait Met. Non, c'est ça, c'est des bonnes blagues, c'est tout. Hein. Non, c'est tous pareil. C'est tous pareil. On doit apprendre des uns des autres. D'accord? C'est parce que vous m'avez cherché.
Non, non, mais ça nous va.
Alors, sur la deuxième ligne du paragraphe. Donc ce sont tous des paragraphes qui parlent dans la tchila. Maïdirti, pourquoi c'est écrit l'otochlou à la dame? Vous ne mangerez pas sur le sang. C'est un pasouk dans Vaïkra, oui, qui parle des korbanot. Et qui dit l'otochlou à la dame, vous ne mangerez pas sur le sang. Que veut dire manger sur le sang? Le sens littéral, c'est qu'on n'a pas le droit de consommer du korban tant qu'on n'a pas aspergé le sang, d'accord? Vous savez que dans les korbanot, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices hola, qui sont holocaustes, qui sont complètement offerts à Dieu. Et il y a beaucoup de sacrifices qui sont les shlamim, etc., où il y a un peu pour le Kohen, un peu pour le propriétaire du korban, et un peu kaviachol, entre guillemets, on offre à Hachem, non pas pour le Lévi, jamais pour le Lévi. Le Lévi, il chante, il a rien, il a juste le maaser en dehors, mais dans le Beit HaMikdash, il a rien. Mais on offre des graisses sur le misbéar ou le sang. Alors le passouk dit, vous n'aurez pas le droit de consommer les korbanot tant que vous n'avez pas aspergé le sang. Ça veut dire que c'est cette reconnaissance à Hachem, on offre un korban pour te remercier, ma femme a accouché, j'étais malade, je ci, je ça, j'ai fait une faute, n'importe quoi. Donc on est reconnaissant à Hachem, on met les graisses sur le misbéar, on asperge le sang et après on peut manger le korban. Mais pour nous, on n'a plus de korbanot. Donc comment ça s'applique l'otochlou à la dame? D'accord? Et cette remarque que je vous fais, il faut la garder pour toujours, que même des sujets qui n'ont plus cours, ils doivent avoir encore un sens pour nous. Ça veut dire que, sinon, pourquoi on étudie le Chumash Vaikra? Tout Vaikra, quasiment on fait rien. C'est les Korbanot, il y a 3-4 parages de Korbanot, les lois de la pureté et de l'impureté, Tazria, Metzora, etc. C'est que forcément, il doit y avoir un lien avec nous, dans notre monde. La Torah est éternelle, et donc en 2023, la paracha des korbanot doit me parler. La paracha de Tazria Metzora, la paracha de la Touma, ça doit me parler. Je dois trouver un sens. Par exemple, ici, on parle du korban, où on dit on ne peut pas manger le korban tant qu'on n'a pas aspergé le sang. La Gemara dit, je vais t'expliquer. L'otochlou, vous ne mangerez pas kodem shetit palelu al damchem, avant d'avoir prié sur votre sang. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger le matin avant la tefila. D'accord? Je vais expliquer, je vais nuancer. La halakha, elle dit que le matin, c'est interdit de manger avant la tefila. D'accord? Amar Rabbi Trak, j'avance. Rabbi Trak, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Chanina. Il a dit Rabbi Yossi, Mishum, Rabbi Lezamen Yaakov, Kol haochel veshoté. Tout celui qui mange ou qui boit, la rakar mitpalel, qui après se met à prier, Alav haKatuvomer, c'est sur lui qu'a dit le verset dans Melachim, Veoti ishlachta achare gavecha. Moi, tu m'as jeté derrière ton corps. Si Hachem, il dit moi, tu m'as fait passer après tes besoins personnel. Et al tirer gavecha, il ne faut pas dire gavecha, et la geecha, ton orgueil. Oui, Amara Gadajoru, la rache en itgaze. Après que celui-là, il s'est enorgueilli, il a pris ses tartines, son beurre, son lait, etc. Qui belle à la vol machout shamaim, il a accepté la royauté céleste. Alors, qu'on s'entende. On parle de choses qui sont superflues. D'accord? C'est-à-dire le gros petit-déj, etc. Café, thé, etc. Il n'y a aucun problème. Premièrement. Pourquoi? Parce que c'est pas une barre d'orgueil. On parle avant la tchila.
On peut.
Le café et du thé, il n'y a aucun problème.
Il avait dit parce que Lubavitch.
Attends. Ah. Doucement. D'accord? On va voir les spécificités de chacun. La halakha, pour tout le monde, elle est la même. Lubavitch, Svarad, Ashkenaz, elle est réglée par la Gemara, par le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de manger avant la tchila. Ce qui est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est une marque d'orgueil. Je pense à moi avant de passer à Hachem. Et donc la première chose qu'on doit faire, c'est remercier Hachem de nous avoir redonné la vie tous les matins. Et puis après, on s'occupe de son petit estomac, ce qui est indiscuté par tout le monde.
Après la fila.
Donc on oui. Commence par remercier avant tout.
Voilà, tu remercies, tu fais modéani, les brachot, la shema, la amida, et après tu prends ton petit déj. Ça c'est la halakha. Tu fais ta tchila et après le petit déj. Maintenant, prendre un café pour se réveiller, il n'y a pas de problème. Prendre de l'eau, il n'y a pas de problème. Ça c'est pour tout le monde. Maintenant, avance. Le café, moi je peux pas, s'il n'est pas sucré, j'ai besoin d'un petit sucre. Alors, s'il n'y a pas de problème, c'est pas par orgueil, c'est parce que tu ne peux pas boire du café non sucré. Jusque-là, tout le monde est bon. Maintenant, quelqu'un, il a des maladies, il doit prendre des médicaments, il a des trucs qu'il ne doit pas prendre à jeun, il est très faible, etc. Là aussi, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de ça. C'est permis de prendre quelque chose. Alors, bien sûr, tu ne vas pas t'attabler à prendre le grand breakfast. Mais si tu as besoin de prendre parce que tu as dû prendre des médicaments, parce que tu es diabétique, parce que si tu as besoin de prendre du pain, un peu de thé, un peu de lait, un peu de ci, il n'y a aucun problème aussi, même d'après la halakha. Ok? Maintenant, c'est là où on va arriver à ce que tu dis. Il y a certains qui ont dit que, surtout par exemple le Shabbat. Oui, Shabbat, on va finir à 9h, on termine à 11h, etc. Je me sens mal, je me sens pas bien. Bon, après, oui ou non. Donc, j'ai besoin de manger un petit peu. Bon, il y en a d'autres qui ont exagéré, qui se sont dit, moi, j'ai besoin de manger tout le temps. Ils disent pourquoi? La fameuse phrase qu'ils ont pris comme leitmotiv, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. C'est-à-dire, quand tu manges pour avoir des forces pour prier, tu pries mieux. Alors que quand tu pries, alors que tu as faim, tu dis vite, je vais manger. Bon. Ça, c'est les chassidim. En particulier les chabad, ils font comme ça. Mais ça n'engage que eux. D'accord? C'est pas parce que eux ils font que c'est autorisé. C'est-à-dire, normalement, chez les Chabad, ils mangent systématiquement, même en chol, lundi, mardi, tous les jours. Ils mangent un peu, des tartines, des ci, des ça. Après, c'est leur minag. Donc, j'ai rien à dire. Mais chez les Sfaradim, on fait le minimum. Si quelqu'un, dans son minimum, il a besoin de mettre du lait dans le café, s'il a besoin de prendre un petit gâteau, surtout avec l'âge, on devient faible, etc., il n'y a aucun problème. Ok? Oui. D'accord? Est-ce que ça répond à toutes les questions?
Oui, absolument.
D'accord? Donc, il y a le principe, il y a halakha, après l'application pratique, chacun doit. Même si quelqu'un il a l'obligation de manger, eh ben, il ne va pas se faire un grand festin. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui doit manger à Tchabab ou qui doit manger à Kippour. Eh ben, il mange le minimum, parce que c'est Kippour. La même chose, tu dois manger parce que tu es malade avant la tchila, tu manges le minimum. Si maintenant tu es vraiment faible, alors tu peux abréger ta tchila pour prendre un grand petit déj et tu continues. D'accord? Il avait dit d'ailleurs, en reprenant cette fameuse phrase, il a dit à un autre rave, qui est le rave de l'Aïda Haredit, qui s'appelle rave, un rave contemporain qui a pas longtemps, pardon. Le chef de l'Aïda Harari, on l'a vu, vous étiez au Spitor il y a une semaine, deux semaines, non? Comment il s'appelait le Rav?
Ah oui, il y a une semaine, il y a deux semaines, j'étais là.
Alors comment il s'appelait le Rav? Bon, bref, c'est un Rav qui a dit, c'est très bien d'habiter en Israël.
Eliashiv.
Hein? Non, pas Eliashiv. Mais il a dit, il vaut mieux habiter en Chutz Laaretz et rêver d'Israël qu'habiter en Israël et rêver de Chutz Laaretz. D'accord? Il dit, à quoi ça sert de venir et rêver de l'Amérique et rêver de ci, rêver de ça? Il vaut mieux habiter en Chutz Laaretz et dire, aïe, 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 j'adore Israël, il me tarde d'eux. C'est-à-dire, en vérité, la relation avec Israël, c'est une relation d'amour, on doit aimer Israël. Bon, alors c'est gentil, ça a la même valeur que la première phrase. C'est un peu moqueur, bon, c'est juste sympathique comme phrase. C'est une semi-réalité.
C'était la semaine dernière.
Voilà, je ne me rappelle plus son nom.
Mais si tu analyses la phrase, derrière, c'est à quoi tu aspires? Il aspire à Israël, l'autre il aspire à sortir d'Israël.
C'est ça qu'il a voulu dire. C'est-à-dire, on doit se rendre compte où on est. Ok. Allez.
Moi, je vais raconter une anecdote qui va prendre 30 secondes.
Non, mais.
C'était il y a 60 ans, au Maroc. J'avais un ami américain et à qui je dis, moi je rêve de l'Amérique. Et il m'a répondu, mais tu sais pas ce que tu dis, l'Amérique c'est ici. Et il m'a donné des explications en me disant, l'Amérique c'est pour nous, c'est quand on est au Maroc, quand on est basé au Maroc, c'est l'Amérique.
Exact.
Voilà, c'était exactement la même chose.
Moi, j'ai vu un dessin comme ça.
Ah, maintenant, tu peux comparer.
Oui. Et une mère noire.
Maintenant, tu peux comparer.
Elle a son maintenant, fils. Tu peux comparer.
Et elle lui dit, l'autre, tu parles de la jungle. Et elle lui dit à son fils, fais attention où tu vas. C'est la jungle. Hein.
C'est-à-dire que...
Et oui, ils sont dans la jungle, mais c'est pas la main. Il dit, fais attention, mon fils, où tu vas. C'est la jungle.
Et là,
c'est
personnel.
Tu comprends?
Donc, le Rav, il s'appelle Rav Moshe Sternbourg. J'ai trouvé son nom. Rav Moshe Sternbourg.
On risquait pas de trouver.
Ouais. Alors. L'avant-dernier paragraphe. Amar Rabbi Mani, vous êtes bon? Il a dit Rabbi Mani, Gadol a koré kriat shema beonata. Ah, alors ça c'est quelque chose qui est peu connu, d'accord? C'est que le schéma, il a un horaire. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de mitzvot qui ont des horaires, mais le schéma, il a un horaire. Pourquoi il a un horaire? En particulier celui du matin. Celui du soir, il a un horaire de démarrage, mais tu peux faire toute la nuit. D'accord? Pourquoi? Parce que le schéma, comment c'est marqué dans la Torah? Voilà. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué Bedibarta bam, beshivtecha, bevetecha, ou shorbecha ou kumecha. À ton lever et à ton coucher. Quand on dit beshorbecha à ton lever, c'est la période où on se lève. Or, les chachamim, ils ont estimé que la période où on se lève, c'est les trois premières heures du jour. D'accord? Alors, vous verrez dans les horaires, quand vous recevez les horaires, il y a le schéma 1 et le schéma 2. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une discussion. Qu'est-ce qu'on appelle heure du jour? Depuis le lever du jour ou le lever du soleil? Mais disons, globalement, les horaires du schéma, c'est à peu près jusqu'à 9h matin. Le jour, il se lève à 6h, d'accord? Jusqu'à 9h, 9h15. Ça, c'est l'heure du schéma.
9h03.
Ah, bah, voilà. Ça, c'est l'horaire du schéma. Et quand on veut faire le schéma correctement, on doit le faire dans les horaires. En particulier...
Il y a le premier à 6h14.
Non, non.
Ça, c'est le lever du jour.
9h47. Oui, voilà. Alors,
voilà. Si vous allez... 9h03, c'est par rapport au lever du jour. D'accord? Et 9h47, c'est le deuxième Zman par rapport au lever du soleil. Le premier Zman, on l'appelle le Magen Avraham. Le deuxième Zman, on l'appelle le Gan de Vilna. D'accord? Vous avez deux horaires. Alors, il vaut mieux faire le premier. En réalité, la plupart du temps, en Chol, on est bon.
Oui.
Le problème, c'est Shabbat.
Ouais.
Donc Shabbat, il faut prendre l'habitude que ça soit en hiver et en particulier en été, il faut faire le schéma à la maison.
Ouais.
D'accord? Parce que si on attend la choule, il va être 9h30, 10h, c'est mort. Surtout en été, c'est beaucoup plus tôt. Parce qu'en été, le jour, il se lève à 5h. Donc la troisième heure, c'est 8h, 8h30, on a vite raté. Et donc, quand on a raté le schéma, on a raté la mitzvah. On va le faire à 10h ou 10h30 à la choule, mais on a raté la mitzvah. D'accord? Oui, on va voir ça. Oui. Regardez, Amar Rabbi Mani, Gadol a koré kriat shema beonata. il est grand celui qui lit le schéma en son temps. Yoter, mais à Osek Batora, plus celui qui étudie la Torah. Ça veut dire que c'est encore plus grand qu'étudier la Torah. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, imagine, dans une autre, tu te lèves Shabbat matin, tu prends un petit café, tu dis, allez, je vais lire la paracha. Comme on fait tous. On s'est levé à 7h, là, je suis là, c'est à 9h, qu'est-ce que je fais ? Je n'allume pas la télé. Alors, je lis la paracha, je fais un peu de Tehillim, je me passe, je bois un café, un deuxième café, patati patata. Et tu t'entraînes. La Gemara dit, attention, ne rate pas le schéma sous prétexte que tu étudies la Torah, parce que c'est encore plus important le schéma que tu étudies la Torah. Pourquoi ? La Gemara a dit, mais des katanés, parce que c'est marqué dans une Mishnah. A Koré Mikan Vailach Loïfsid, Kadam A Koré Batora. C'est une Mishnah dans Brachot. Que celui, le schéma, on doit le lire dans les trois premières heures. Si quelqu'un, il a dépassé l'heure, oui, Loïfsid, il n'a pas tout perdu, mais c'est comme un homme qui étudie la Torah. Ça veut dire sa lecture équivaut à de la lecture de la Torah. Sous-entendu, que tu n'as pas tout perdu, qu'en réalité, parce que le schéma en son temps, c'est comme de l'étude de la Torah. Alors là, je vais parler tout doucement, parce que la Gemara, elle dit que c'est quelque chose qu'on doit dire, qu'on ne doit pas dire aux ignorants. Oui. Comme ça, dit la Gemara, ne dis pas, ou dis-le doucement, que quoi ? Parce que la Gemara dit qu'en réalité, lire le schéma équivaut à étudier la Torah. Et donc, pour quelqu'un qui est très pris, qui n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de connaissances, il lit un peu la Torah le matin, il lit le schéma le matin et le schéma le soir. Exactement. Bon, mais voilà, j'ai étudié la Torah. Après ça, maintenant, il dit Rachem, tu vois, j'ai étudié la Torah. Comment ? J'ai fait le schéma le matin, donc la Gemara dit, ça, c'est pas des choses à dire aux ignorants parce qu'ils avanceront pas dans l'étude. Mais en tout cas, on voit que faire le schéma, c'est en même temps étudier la Torah et en même temps faire une mitzvah. Donc c'est double. Alors que quand tu lis le schéma en dehors de l'heure, tu as perdu la mitzvah de schéma, bon, tu as la mitzvah d'étudier la Torah, ce qui n'est pas non plus rien du tout. Mais tu as raté l'autre mitzvah.
Moi, j'avais pensé pour autre chose, que c'était plus important. Parce que, comme vous dites, là, par rapport à l'horaire,
oui.
C'est que, justement, le schéma, on ne peut pas le faire quand on veut. On est régi par rapport à un horaire.
Oui.
Alors que la Torah, tu peux étudier toute la journée. Donc, tu n'as pas d'impératif.
D'accord, mais qu'est-ce qui te permet de dire que c'est plus grand
parce ben que c'est plus grand parce que les conditions sont plus difficiles. Tu dois être dans la tranche horaire pour avoir
la chose. Ah, c'est plus difficile de réaliser.
Bah oui, parce que tu as des conditions qui sont plus compliquées pour être dans
plus
les...
Plus contraignantes, oui, voilà. Je comprends. Ouais.
Alors que la Torah, tu peux toute la journée, même la nuit, il n'y a pas de problème.
Bon, c'est possible. Mais en valeur, l'étude de la Torah, c'est très grand. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Hachem nous a donné comme l'oxygène.
Et au Shorbecha, c'est à ton réveil.
Non. Shorbecha ou Kumecha. Oui, quand tu te couches. Oui, parce que d'abord on commence le schéma du soir, parce que les jours ils commencent le soir. Quand tu es couché. Non, Shorbecha quand tu seras couché.
Kumecha
est quand à ton lever. Donc c'est pas quand tu es levé, au moment du lever.
À ton lever, c'est Kumecha.
Oui, oui. Mais le mot Kumecha, c'est pas quand tu es debout, c'est quand tu te lèves.
Oui, ton lever, je veux dire, c'est pas forcément celui des autres.
Ah, oui, mais tu as raison. Alors en réalité, tu as raison. Les Rachamim, ils ont dit que normalement, on devrait le faire dès qu'on se lève, à ton lever. D'accord ? Pourquoi ils nous ont donné 3 heures ? Parce que c'est la tranche habituelle où les gens se lèvent. Et c'est pour ça qu'il y en avait qui disent non, un peu plus, parce que c'est les rois et les bourgeois, ils se lèvent très tard. Donc il y a plusieurs avis dans la Mishnah.
Quelqu'un a des horaires décalés, par exemple.
Oui.
Et qui se lève à 10 heures.
Oui.
C'est à son lever. À lui, quoi.
Si tu veux. Mais tu as raison. Mais par rapport à la demande des Rachamim, il sera en désaccord. C'est vrai, c'est une bonne question. Ça, quelqu'un qui... Quelqu'un qui travaille la nuit, ou qui travaille, c'est des horaires décalés. Ouais, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ça correspond à son lever. Ouais. Par exemple, quand il y a des veillées, vous voyez qu'on veille toute la nuit, avant d'aller dormir, il faut faire le schéma, sinon on va dépasser. Mais la question de Michel est très bonne, je ne sais pas. Quelqu'un qui aurait des horaires décalés, je ne sais pas.
C'est la deuxième personne, quoi.
Oui. C'est-à-dire que c'est adaptable. Tu as raison. Je ne sais pas.
Alors, si on le fait le soir, avant de se coucher.
C'est valable. C'est le schéma du soir. Il faut qu'il ait fait nuit. Il faut qu'il fasse déjà nuit.
Oui, bien sûr.
Avant
d'aller dormir. Ah
non. Je vais revenir sur ça.
On n'est pas obligé de le faire le matin.
Si.
À 8h.
Ça n'a rien à voir. C'est deux mitzvahs différentes. Le schéma de la nuit et le schéma du matin, c'est deux mitzvahs. Vous avez fait le schéma de la nuit correctement. Celui du matin, vous le faites faire avant l'heure. Avant la troisième heure.
Il ne remplace pas.
Non, d'accord.
Comme en été, quand la nuit c'est à 11h, oui. 23h, et il y en a qui se couchent à 21h. Comment ils font ?
Eh bien, normalement, on ne peut pas. T'as raison, on ne peut pas.
Sauf si c'est fatigué.
Alors il faut se lever un peu plus tôt le matin pour le faire avant de lever.
Oui, non, mais le soir, il faut.
Oui, mais si tu le fais le matin avant qu'il soit un jour, c'est encore bon. Mais il n'a rien à mettre. C'est vrai que c'est par exemple problème pour les enfants. Quand on a des enfants, bah, tu ne vas pas les faire coucher à 11h30 pour faire le schéma. Alors ils vont dormir. D'accord ? Et alors, je vais revenir là-dessus. À part la question de Gabi, il a dit le schéma avant de dormir. En réalité, c'est
demi. En dormant.
Oui, en général, on fait à moitié endormi. Oui. Mais normalement, il faut être réveillé pour le faire. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux méthodes différentes. Le schéma d'avant de dormir, avant de faire dodo, comme la maman, elle avait dit, Gabi, fais le schéma. Mais il faut faire. Ce soir, tu recommences. Tu recommences.
Il y a les textes à
lire. Non, non! Il n'y a pas besoin du texte. C'est parce que justement, comme on a tellement rajouté des textes, que les uns, ça les a découragés.
Franchement, je fais plus le schéma.
Voilà. Tu veux le schéma, et même que le premier paragraphe, si tu fais ça, suffit. La Gemara dit, c'est une shmira des mazikim. C'est une shmira, c'est une protection. Avant de dormir. D'accord? C'est comme si on donnait notre âme à Hachem pour la nuit, on dit, fais-y attention. C'est ça l'idée du schéma à la misa. Si je fais schéma Israël, de Hafta, et c'est que le premier paragraphe, et ça suffit. À partir de ce soir, tu reprends. Mais et donc, par rapport à la question de Gabi, que le schéma d'avant de dormir est différent du schéma de la nuit. C'est-à-dire, le schéma de la nuit, maintenant, il est...
Celui d'Arvid.
Celui d'Arvid, quand tu es Arvid, oui. Etc. Donc, ça dépend quelle heure tu es Arvid, mais maintenant, il fait nuit à 7h, même à 6h30, maintenant, c'est avec le changement horaire. À 7h, tu peux déjà faire le schéma. Oui. Il ne faut pas attendre plus tard, parce qu'en réalité, on doit faire le schéma dès que ça arrive le moment. D'accord? Il fait nuit. D'accord? Je suis encore au travail. D'accord? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Ok, on fait pas comme ça. Par exemple, quelqu'un il travaille, il fait pas envie, il va pas à la choule. Donc il a fini le travail à 6h, il rentre à 7h, il prend un café, il mange 9h, il est 9h30, il est capote, il dit je vais aller dormir. Ah mince, c'est pas fait envie. Alors il peut, mais normalement, il faut faire le schéma dès qu'il fait nuit. Maintenant il est à 6h30, il fait nuit, où que tu sois, tu es au travail, schéma Israël, tu as fait la mitzvah. C'est pas besoin d'attendre la fin. Maintenant si il était très fatigué, et qu'il est très tard, et que tu n'as pas fait ni Arvid, ni le schéma, et tu vas aller dormir, le schéma d'avant de coucher, il marche aussi pour les deux.
Tu n'as pas mis les tuiles un petit peu,
non? Non, bah, on peut l'amuser, quand même.
Attends, il faut une petite entrevue pour remettre les compteurs à zéro.
Ah,
zéro.
Ouais, j'ai mis les tuiles.
Non, je rigole. Pourquoi je parle
dis-moi,
de quoi?
Dis-moi, une petite question qui n'a rien à voir. Mais...
Tu, ouais. Tu parlais de ça pour différencier entre le schéma de Arvid et le schéma
voilà.
De...
Voilà, ça oui, mais j'ai encore chose. Bon, c'est pas grave. Oui, Gabi.
Ça n'a rien à voir.
Ah,
si ça n'a rien à voir avec le chiot?
Non.
Rien bon, quand c'est la première fois, pour t'encourager à revenir, d'accord.
Après,
vas-y.
Il y a des femmes, elles disent Moda, Annie.
Ah, mais c'est comme ça qu'on doit dire.
Non,
Moda, c'est le féminin.
Ouais, mais, oui, le texte, non,
mais parce que c'est un texte pour les hommes, c'est des livres pour les hommes, je te donne un livre pour les femmes.
C'est
oui, non, c'est le texte pour les sidours des hommes, mais en Israël, ils font des sidours pour les femmes, ou tu as Moda, Annie, ou par exemple, il y a une. Même Abraham Sanisha, elle dit Shasani Kertsono, c'est pas la même, il y a quelques différences. En général, oui, mais Modani, on doit dire Modani, c'est un féminin de Modani.
C'est conforme avec la grammaire.
Exactement. Hazak. Alors, encore
c'est
un tout petit.
C'est Sakur Ravim, la nuit. C'est
oui.
Sakur Ravim.
Oui, pas Shabbat. Oui. Pas la sortie. La sortie de Shabbat, c'est en général 10 minutes.
Non, aujourd'hui, 10 minutes. Par exemple, c'était 18h04.
Voilà, à 18h04, vous asseyez, vous faites Shema Israël et vous êtes tranquille, vous avez fait la mitzvah. Après maintenant, ce qui est bien, c'est qu'à faire, si vous avez envie, vous pouvez faire Arvit. Mais si par exemple vous n'avez pas l'habitude de faire Arvid ou c'est trop long, etc., vous faites le schéma, c'est bien. Si vous savez faire Arvid, vous n'avez fait que, entre guillemets, une mitzvah de Rabbanan. Mais le schéma du soir, c'est une mitzvah de la Torah. Donc si effectivement ça te saoule de faire les deux, tu fais avant de dormir, et tu as fait avant de dormir et schéma, et tu as gagné, et tu es bon sur tous les plans. Il faut faciliter la vie.
Eh ouais,
alors, encore un tout petit bout. Allez. Amar Rabbi Abba Bar Zavda Amar Rav. Il a dit Rabbi Abba Bar Zavda au nom de Rav. Avel chayav bechol mitzvot amurot batora. Alors, je vous rappelle, même si ça fait un peu l'avdil ben kodesh lechol, ça fait un peu prévert, c'est-à-dire le papillon, la chauve-souris, et ça, c'est des textes qui sont des fois décollés. Il y a des textes qui sont un peu longs, mais il faut se rappeler que ce qu'on étudie, c'est une compilation de tous les morceaux choisis de la Haggadah dans le Talmud. C'est-à-dire, il y a deux pages, des fois il y a deux lignes, trois lignes, des fois une autre, des fois c'est un texte suivi. Donc des fois c'est un peu décousu, d'accord? Ils ont compilé tous les agadotes du Talmud de Babylone. Rabbi Abba Bar Zavda, il a dit ceci, Avel, un endeuillé, chayav bechol mitzvot amurat batora. Il est obligé de faire toutes les mitzvot de la Torah. Chutz minat filin, sauf les tfilin. qu'est-ce qu'on appelle l'endeuillé ? C'est l'endeuillé le premier jour. Parce que le premier jour du deuil...
Avant l'enterrement. Non.
Alors, si la mort et l'enterrement ont lieu le même jour, même après l'enterrement, il ne met pas. D'accord ? Le jour... Alors, on va voir. Ça, bon, il y a beaucoup à dire sur les lois du deuil. Il faut savoir que les lois du deuil des Juifs, elles sont des lois très intelligentes. Beaucoup de chokhma, beaucoup de psychologie. Ça s'étudie, les lois du deuil. Il faut les connaître. D'accord ? C'est toujours un peu sinistre. Mais quand on est dedans, on n'a rien d'autre à faire que d'étudier les lois du deuil. On n'a même pas le droit d'étudier la Gemara, parce que la Gemara, ça réjouit, c'est sympa. Donc quand vous étudiez les lois du deuil, vous voyez qu'il y a une grande chokhma, ce sont des lois d'ordre rabbinique. Ce n'est pas marqué dans la Torah. La Torah dit simplement, elle parle du deuil, etc. Mais toutes les lois du deuil sont d'ordre rabbinique, et elles sont destinées à intégrer la perte d'un être cher. Tout est calculé, tout est organisé pour pouvoir vivre le deuil et se relever du deuil. En tout cas, le premier jour, qui en général, en tout cas en Israël, ça coïncide la mort et le deuil, et l'enterrement, puisqu'on enterre le premier jour, eh bien on ne met pas les tefillin. Par contre, toutes les mitzvot négatives, kasher, netilatérein, tout ça on doit faire. À partir du deuxième jour, eh bien on revient à chayav de toutes les mitzvot. Okay? Pourquoi on ne met pas les tefillin? Sha'arei ne'emar ba'em pe'er. Parce que les tefillin sont appelés pe'er, une splendeur. She'ne'emar pe'er chavosh alecha. La splendeur est sainte sur ta tête. C'est-à-dire que les tefillin sont considérés comme un objet de gloire. Or, la personne qui vient de perdre un être cher, il a tout sauf de la gloire. D'accord ? Il ne veut pas se mettre en avant, au contraire, il veut se recroqueviller. Eh bien, les chachamim, ils se sont appuyés sur un pasouk du Navi, donc c'est même pas Minat Torah, ils lui ont dit, on comprend cette douleur, d'accord ? Et il ne faut pas mettre cette filine. Alors bon, on ne va pas s'allonger parce que ça nous amènerait loin, mais en réalité, ça va plus loin que ça. Que jusqu'à l'enterrement, ouais, on a un statut particulier, on s'appelle
Avel.
Onen. Ouais. Onen. À partir de l'enterrement, on s'appelle Avel et on est un juif comme tous les autres. Sauf qu'on est assis par terre, on ne mange pas de viande, on ne passe pas les chaussures, tous ces trucs-là. Mais sinon, les mitzvot, c'est tout. Par contre, jusqu'à l'enterrement, des fois c'est le premier jour, ou des fois ça peut durer deux jours, trois jours, quand c'est un
Yom Tov,
ou qu'il faut transporter le corps, on est un Onen. Onen, c'est comme si, disons, on dirait, on est un paralysé. On n'a pas le droit de faire les mitzvot positives. Rien. Il n'y a pas de tefillin, il n'y a pas de brachot, il n'y a pas de tefila, il n'y a rien. Il n'y a que les mitzvot négatives. C'est-à-dire, tu manges du pain, tu fais pas de bracha. Tu te laves les mains parce que c'est la touma, mais tu manges ton pain comme ça. D'accord ? Tu manges ta viande, il n'y a pas de birkat, rien. C'est un statut tout à fait particulier qui déstabilise en général, parce qu'on comprend, on dit, mais attends, je suis juif, moi. Ça n'existe pas que je mette quelque chose dans la bouche en bracha. Toujours je fais la bracha. Là, on te dit que tu n'as pas le droit. D'accord ? Ah bon, on reparlera un de ces jours parce que c'est très intéressant. En tout cas, les chachamim ont voulu... On est dans une sorte de, pour employer un mot qu'on avait déjà employé il n'y a pas longtemps, de sidération. D'accord ? L'homme qui est en deuil, qui vient de perdre un être proche, il est comme s'il était paralysé. Et on lui demande le strict minimum. Fais la cacheroute, fais... Oui. Mais le reste, rien. Ni à Shiryat Sar, ni rien du tout. Concentre-toi sur ton endeuillé. Et puis après l'enterrement... pourra relever la tête. Ok, bon, on va s'arrêter là sur ces bonnes paroles. Donc, nous t'engageons tout